dans ce sens, je suis d'accord avec ceux, n'est-ce pas, qui pensent qu'il faut serrer la vis. Les éducateurs ont constaté qu'avec inquiétude, n'est-ce pas, avec inquiétude, que réellement, il était beaucoup de parents avaient réellement démissionné. Et qu'il fallait, et si ceci, si nous sommes arrivés à cet état de choses actuel, c'est que les parents sont entièrement responsables.
Est-ce que vous acceptez qu'une jeune fille sorte seule? Si oui, à quel âge?
J'accepte bien qu'une jeune fille sorte seule à partir de 20 ans, pas avant.
Pas avant?
Pas avant.
Et un jeune homme?
Un jeune homme aussi.
À 20
Pourquoi
ans?
Pas, à 20 ans.
Bien. À 20 ans, quand une jeune fille sort, à quelle heure peut-elle, selon vous, regagner le foyer? À quelle heure de la nuit, évidemment?
J'estime que une jeune fille qui a bien formé, n'est-ce pas, qui a bien mûre, et qui à 20 ans sort, n'est-ce pas, doit savoir à quelle heure il doit entrer chez
elle. Magnifique. Est-ce que vous accorderiez le permis de conduire à votre fils à 17 ans?
Non, je n'accorde pas davantage.
À quel âge?
À 20 ans.
20 ans.
Oui.
Pour vous, 20 ans, c'est l'âge
si,
clé.
Si.
C'est l'âge clé.
Oui. À 20 ans, je trouve que si les parents, si l'éducateur a fait réellement son devoir, à 20 ans,
l'enfant est fait.
Merci, madame. C'est une question qui, à mon avis, est liée au genre de vie que mènent les parents. D'une façon générale, les parents qui ne sont pas mondains ou qui ne peuvent pas l'être, ne laissent pas une trop grande liberté à leurs enfants. Ceux-ci vont, par exemple, au bal aux grandes occasions. J'estime personnellement qu'à ces grandes occasions, les adolescents de 16-17 ans peuvent sortir seuls ou accompagnés d'amis. Dès l'enfance, la famille doit pouvoir inculquer à l'enfant le sens du devoir et de la discipline, de la tenue morale, et qu'arrivé à 16-17 ans, celui-ci est à même de prendre une certaine autonomie. Je ne peux pas formuler de règles à ce propos, mais c'est le principe que personnellement j'applique en ce qui concerne mes fils. Je les élève de façon assez libérale, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent tout faire.
Eh bien, pour un garçon, cela dépend de l'heure des sorties et des circonstances. Je crois que entre 12 et 16 ans, le garçon devrait regagner sa demeure à 7 heures du soir au plus. À partir de 18 ans, eh bien, il peut participer à des réunions mondaines et rentrer à minuit au plus tard. Mais il faut qu'il soit en compagnie de camarades que l'on connaît et que les milieux qu'il fréquente ne soient pas douteux. Hélas, on a moins de prise sur les garçons que sur les filles. Une fois qu'il est dans la rue, eh bien le garçon oublie tous les principes qu'on lui a inculqués, il en fait à sa tête. Le plus souvent, ils veulent épater leurs camarades. Et vous savez, faire de l'épate, ça coûte cher. Le mieux en ce cas est de ne pas mettre une voiture trop tôt à la disposition du garçon, comme on le voit ces jours-ci, n'est-ce pas, et d'attendre simplement qu'il travaille pour s'en procurer une. Il ne faudrait pas non plus qu'il ait le portefeuille trop bien garni. Et puis, autant que possible, ses fréquentations devraient être passées au crible.
Que ce soit garçon ou fille, la règle pour moi, c'est de lui accorder le permis de conduire après le bachot. D'une façon générale, j'estime qu'un adolescent, enfin qu'un enfant, doit prendre le volant quand il peut lui-même s'acheter sa voiture.
Eh bien, pour les filles, vous allez me trouver vieux jeu, je le crains. Je crois que la fille doit être chez elle dès qu'il commence à faire noir. Ça, c'est un principe ancien, mais je crois que ça vaut jusqu'à présent pour Haïti. Voir une fille seule dans la rue, au cinéma, au théâtre, eh bien, ça fait mauvais effet chez nous. Au bal, la jeune fille devrait toujours être accompagnée d'une grande personne. C'est rarement le cas ces jours-ci, vous me direz, mais c'est ça. Dernièrement, j'ai été à un bal de jeunes, histoire de me documenter, j'aime ça. Eh bien, si les parents savaient, s'ils voyaient ce qui se passe dans ces bals, qui ont lieu dans les salons de monsieur et madame un tel, il s'agit toujours de gens respectables, eh bien, si les parents savaient, ils n'enverraient jamais plus leurs filles à ces réunions, ou alors ils les y accompagneraient. Au cours de ces soirées dansantes, les filles disparaissent à volonté. Ou bien elles vont retrouver le garçon de leur vie ou de leur rêve dans une voiture, ou bien elles quittent carrément le bal et y reviennent après une promenade, enfin, pas toujours innocente d'après moi. Bien sûr, il y a des filles qui ont de la conduite, ça on le sait, mais il conviendrait de ne pas les exposer inutilement. Nous connaissons trop bien l'histoire de cette orange pourrie qui risque de gâter tout le panier d'oranges.
Pour seul, tu rentres à n'importe quelle heure?
Non, pas à n'importe quelle heure. Disons, à 14 heures, vous pouvez rentrer à 9h.
À 9h. Et en ce moment, à quelle heure tu peux rentrer?
Ah non, je rentre à n'importe quelle heure.
À n'importe quelle heure?
N'importe quelle.
Si tu avais une fille, est-ce que tu la laisserais sortir seule?
Si j'avais une
oui,
fille?
Oui, seule avec des garçons, carrément, là, net, en face des filles qui sont là. Est-ce que tu la laisserais sortir seule?
Bien sûr.
Bien sûr. Est-ce que tu trouves que les jeunes filles que tu connais sont trop libres ou pas assez libres?
Donc, je crois qu'elles sont libres, n'est-ce pas, dans...
Dans un certain sens.
Un certain sens.
Dans quel sens?
Dans la moyenne...
Ça te convient?
Ça me convient.
Est-ce que tu aurais aimé élever tes filles, si jamais tu en as, comme tu vois que les jeunes filles vivent en ce moment autour de toi?
Oui, comme celle de ma classe.
Comme parce celle que... de ta classe.
Yes.
Tu la trouves bien, cette fille de ta classe?
Très bien, très bien.
Mesdemoiselles, mes compliments. Mais dis donc. Jusqu'à quelle heure on vous permet de sortir chez vous?
C'est-à-dire que je sors toujours avec mes parents.
Toujours?
Avec ma maman.
Quand vous allez au cinéma?
Mais oui, je vais, c'est-à-dire au ciné avec mes parents.
Avec vos parents. Vous ne sortez pas seul, en d'autres termes?
Non.
Vous sortez seul?
Oui, quelquefois.
Non, je veux dire, est-ce que vos parents acceptent que vous sortiez seul?
Oui.
Jusqu'à quelle heure, la permission?
Oh, si je vais au bal, je peux rentrer à 3h.
À 3h, très bien. Vous allez au cinéma seul?
Oui.
Avec votre ménage?
Oui.
Vos parents, vous avez un père et une mère? Ils le connaissent?
Oui.
Ce garçon vient vous voir chez vous?
Oui.
Quand? Combien de fois par semaine et combien de temps ça dure?
Enfin, j'ai toujours dit que je n'aimais pas que quelqu'un... Enfin, si j'avais un ménage, qu'il me fréquente chaque jour. Alors, il vient 3 fois par semaine.
3 fois par semaine.
Ça
bien.
Me suffit.
À quelle heure il s'en va?
Oh, à 9h.
Est-ce que cela signifie que vos parents ont confiance en vous?
Oui, ils ont une confiance absolue en moi.
Au cours d'une réunion à l'école, parents, professeurs, élèves, un enfant a demandé la parole et s'est exprimé dans ce sens, que nos parents ne constituent plus pour nous des exemples. On ne doit pas lui imposer telle chose sans que les parents vraiment ne se soumettent pas à la règle.
Il n'y a pas suffisamment de lien entre parents et enfants parce que très souvent, ils nous disent qu'il ne faut pas faire ceci et puis ils ne disent pas pourquoi. On nous demande de ne pas voir tel film, on accepte, mais ils ne nous donnent pas
les raisons.
Et aussi, il y a le problème de l'éducation sexuelle. Chez les parents, ils ne font pas ça. C'est pourquoi très souvent, les jeunes vont ailleurs chercher
ces informations.
Et parfois, chez des amis, ils reçoivent de très mauvaises informations.
D'après moi, les parents, bien souvent, cherchent à s'identifier dans leurs enfants. Ils voudraient, ce qu'ils avaient rêvé de faire, ils voudraient voir cela se réaliser par leurs enfants. Hier, j'ai entendu M. Baval qui disait, en parlant d'un de ses amis, je ne sais plus, qui avait le goût pour les plaidoiries et qui avait rêvé de voir son enfant
devenir avocat.
Et que quand il a appris que son enfant ne pourrait pas réaliser son rêve, il a été très déçu. Et bien souvent, chez moi aussi, je me trouve, dans la situation où mes parents, me répètent à tout bout de champ, moi, quand j'étais ceci, moi, quand mes parents me disaient ceci, j'agissais de telle façon, alors que moi, je sens que...
Vous auriez aimé agir différemment.
Oui, être libre de faire
ce que vous voulez.
Ce que je veux.
Vous avez quel âge?
19 ans.
Croyez-vous qu'à 19 ans, une jeune fille puisse faire ce qu'elle veut?
Non, ça dépend de ce qu'on veut que je réalise comme pour avoir un goût pour telle chose et que je sois en opposition avec.
Oui, justement, il faut préciser parce que vous dites ce que vous voulez faire dans la vie, par exemple, ce que vous voulez faire de votre vie, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans la vie?
J'aimerais apprendre un métier pour être indépendante. Pour
gagner
ne pas...
votre vie.
Oui.
Ne pas dépendre d'autres personnes. Bien. Et ce métier, vous ne l'avez pas encore choisi.
Non.
Pourquoi? Vous n'avez pas encore de goût pour quelque chose de précis?
Non. Parce qu'on tend à m'influencer vers une carrière qui...
Ne vous intéresse pas encore. ou ne vous intéresse pas du tout?
C'est pas qu'il ne m'intéresse pas, mais parce qu'on...
Parce qu'on vous, vous force, vous,
oui,
vous rebellez.
Oui.
Bien. Alors, si vous étiez libre du choix, qu'est-ce que vous auriez choisi? Vous n'avez pas encore décidé.
J'aurais voulu faire... apprendre... Et, comment on dit ça? Être institutrice, mais pour les enfants handicapés.
Vous auriez aimé vous occuper des handicapés?
Oui.
C'est ça. Pourquoi?
Enfin, parce que... ils sont diminués et je voudrais les aider, enfin, à acquérir une place
dans la société.
Dans la société.
Le passage est certes délicat. Le contact avec les dures réalités de la vie, les difficultés immenses de vivre ses rêves ou son idéal, une approche romantique, un désir ou une volonté arrêtée de vivre dans un monde fraternel et juste, tout cela, et qui est excellent, et qui est un bon levain, en face du spectacle du monde, peut créer des troubles psychologiques, susciter quelques révoltes. On se réfugie en soi-même ou on cherche l'évasion.
Mais au moment où je vous parle, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une affaire, cette affaire-là, je n'ai jamais vu cette plante-là qu'on appelle marijuana. Au contraire, je vais à la police pour voir cette affaire-là, et jusqu'à présent... À la boule... Non, non, il n'y a pas ça à la boule. Il y a une autre plante qui ressemble à la marijuana, on dit, on fait...
On prétend qu'à la Jamaïque, et quand il y a quelques mois de ça, j'étais à la Jamaïque, et à Montego Bay, j'ai vu des hélicoptères qui survolaient certaines zones. Et il m'a été révélé que ces hélicoptères étaient précisément affectés à détecter les champs et que les rastafariennes, n'est-ce pas, et les champs sur lesquels les rastafariennes cultivaient la marijuana. Mais je ne l'avais jamais vu moi-même. Et alors, celui qui me ciceronnait avait eu cette réflexion humoristique, mais puisque nous sommes sous les tropiques, ne pensez-vous pas que chez vous, vous pouvez avoir cette plante aussi? Je ne dis pas que je sache et je suis certain que personne ne pensera à le faire parce que le gouvernement le détecterait aisément, parce que nous ne blaguons pas en Haïti, c'est ce que je lui avais répondu sur le même ton humoristique. C'était la réponse parce que la Jamaïque, il semble dans certaines zones forestières, ces plantes-là sont cultivées.
J'ai l'impression qu'on va finir tout de suite avec cette affaire-là, puisque le peuple haïtien est allergique. Le peuple haïtien, dans sa presque totalité, est allergique à cette affaire de drogue. À part deux ou trois étudiants haïtiens qui ont visité les pays étrangers, qui reviennent avec ce vice-là, mais le peuple haïtien est allergique à cette affaire de drogue. Je crois que si nous faisons un effort collectif, on arrivera à éliminer ce cancer-là.
Pourquoi on avait éliminé les cellules communistes?
Parce que comme je vous le dis, vous êtes la témoin, vous autres les journalistes, des efforts quotidiens du gouvernement pour assurer une paix réel à tous les Haïtiens vivant sur cette terre d'Haïti, chérie. Je pense, moi, en ministre de l'Intérieur, le gouvernement n'a jamais procédé à des arrestations politiques, vous êtes au courant. Mais ne nous forcez pas la main, parce que nous serons très durs et impitoyables, ça je le dis, et je prendrai mes responsabilités pour l'histoire. C'est fini.
C'est quelque chose. Cher ami, même si vous étiez l'ennemi personnel, je leur ai dit, même si vous étiez l'ennemi personnel de ces ministres, eh bien, vous devriez penser haïtien et vous dire que ce sont des ministres du gouvernement et ne pas à la légère citer leur nom. Même si vous étiez leur ennemi personnel, hier soir, je le disais, à des gens qui m'en parlent. Alors ils m'ont dit, mais c'est pas nous qu'ils disons, c'est dans l'air,
vous partout. Vous avez vu la campagne du gouvernement contre cette affaire de hippie?
Oui, exactement. Alors, je leur ai dit,
comme, parce qu'un type qui est hippie, donc il est supposé prendre la drogue.
Oui, j'ai fait cette allusion à une étrangère qui m'a dit, est-ce vrai et qu'on coupe les cheveux ici? J'ai dit oui, mais il y a une étroite collaboration, une étroite relation plutôt, entre le fait de porter les cheveux longs et celui de prendre de la drogue. C'est pour prévenir, n'est-ce pas, l'absorption de la drogue par les jeunes qu'on fait couper les cheveux trop longs à ceux-là qui en portent. Parce que pour nous, il y a une relation très étroite entre porter les cheveux longs et prendre de la drogue.
Ce qui est nécessaire pour que notre territoire ne se transforme pas en un carrefour de la drogue. Nous ferons tous les efforts nécessaires, quels que soient les sacrifices que nous devons consentir.
Par exemple, la police est recherche d'autres individus que nous ne pouvons pas révéler. Leur nom, mais alors, une fois qu'on les retrouve, ils seront expulsés systématiquement.
Systématiquement. Parce que notre territoire ne doit pas se transformer en un carrefour de la drogue. Ça, nous vous en donnons la garantie.
Et par exemple, vous autres journalistes, vous êtes au courant un peu de tout. Si par exemple, quelqu'un vient en Haïti, soit pour affaires, vous avez des renseignements confidentiels sur cet individu, n'hésitez pas à venir au département de l'intérieur ou bien au bureau de la police. Vous le faites pour vous et pour le pays aussi, parce que vous avez des enfants. Nous avons besoin du concours de...
J'oublie encore ceci, cette information que m'avait donnée, et naturellement une information fondésiste, puisque il m'a dit que d'après lui, et c'est Curaçao qui était la plaque, et Nassau qui était la plaque tournante de la drogue, et que la drogue était transitée à Nassau et de là venir et en Haïti ou aller ailleurs. C'était Nassau, il avait cité.
Alors pourquoi il dit ça? Parce que nous venons de signer un contrat avec Flamengo Airlines, et que ce sont les gens du gouvernement qui facilitent cette transaction, cette affaire-là. Donc ils disent que oui, le gouvernement est intéressé. Exactement.
Et bien, Nassau ne saurait servir de plaque tournante pour la drogue qui devait venir en Haïti. Parce que, comme vous l'avez constaté, nous ne consommons pas chez nous. Hein. Le marché n'est pas intéressant.
C'est-à-dire que Nassau ferait venir ici et d'ici, on enverrait aux États-Unis un système de détournement. C'est ce qu'il va laisser comprendre.
Ils ne sont pas informés.
Je ne parle pas en tant que ministre de l'Intérieur, je parle maintenant en tant que Luckner Cambonne. Si je recherchais un moyen pour avoir de l'argent, je ne choisirais pas cette voie. Parce que vous êtes là, vous connaissez ma force, ma capacité de travail. Je suis ministre de l'Intérieur, mais je fais mon travail personnel. À la CAE, j'ai des terres et je travaille. À la Rivière Froide, j'ai des usines et je travaille. Donc, pour une affaire de drogue, ce n'est pas mon fort. Je ne me reconnais pas.
C'est vrai.
Moi, je suis contre cette affaire-là.
Ce sont des adversaires qui me disent, ils savent très bien que c'est pas vrai, des adversaires du gouvernement. Là, naturellement, ça, il n'y a pas à sortir de là. Ce sont des propos d'adversaires.
Pas nous autres la propagande pour ces types-là qui disent ça.
Donc il faut. Voilà. Je vous ai fait
pas confiance.
Paternité et la gloire légitime, l'auto-identification ethnique du pays en spéculant sur sa disparition. Pour son renversement. Soit que cette combinaison machiavélique se soigne qui est ingénié à retarder systématiquement les travaux tout en fournissant des rapports faux aux premiers citoyens de la République. Soit enfin que l'héroïque main-d'œuvre des pays migrants ait été subtilement encouragée à ignorer Duvalier comme le seul animateur de cette réalisation. Aveuglé par cette ambition politicienne, on était tout d'un prêt, peuple haïtien, jeunesse de mon pays, perdant de vue l'intérêt collectif à sacrifier ses intérêts majeurs en livrant le pays aux querelles insensées d'une prise de pouvoir hypothétique. Heureusement que je suis et je demeure celui qui veille sur la cité endormie. Je suis à temps déjouer la manœuvre, conjurer l'action nocive du Deus ex machina. On s'imaginait avoir dressé un tel écran de paperasse. J'avais perdu de vue ce qui fait la légitimité de mon pouvoir. Travailler à votre bien-être, jeunesse de mon pays, pour justifier la confiance que vous avez placée en moi. Et en moi seul, depuis 14 ans. J'ai donc adopté les mesures qui s'imposaient. Et dont vous avez été tous témoins. J'ai affecté d'autres responsables aux travaux de Péligre. J'ai séparé la fonction d'exécution de celle de financement. J'ai fait procéder à l'appuiement des comptes du chantier. J'ai ordonné que soit accéléré les constructions devant recevoir les turbines. Ainsi, malgré qu'on ait souhaité autrement les troublions, avide du pouvoir, nous irons à Péligre. En dépit des combinaisons intéressées, notre pèlerinage à l'Antibonite sacrée aura lieu. Il aura lieu en juillet prochain. Et c'est moi qui inaugurerai le système hydroélectrique de Péligrand. La vie est ainsi faite que rien de grand et de durable ne se gagne sans effort. Plus on dresse des obstacles à nos rêves et à nos espoirs, plus il nous faut bander nos muscles. Si la vie matérielle s'oriente de plus en plus vers une civilisation presse-bouton, l'organisation sociale et l'organisation politique demeureront irrémédiablement le fait de l'être humain. Et dès que l'homme intervient, s'introduise avec lui toutes ses grandeurs et en même temps que ses calculs égoïstes et mesquins. Du coup, il entre dans toute équation, même la plus simple, en apparence, les éléments d'incertitude et d'impondérabilité qui faussent tous les calculs, même les plus pessimistes. Le non-commerce que j'ai recherché avec mes semblables. Les 14 années de magistrature suprême que vous avez vécues avec moi m'ont appris qu'un chef ne doit jamais baisser sa garde sous peine d'être la plupart du temps floué. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Il a fallu toute la ténacité, 20 fois prise en défaut, 20 fois triomphante, des Jules César, Auguste, les Vespasiens, les Titus, les Trajan, pour soustraire la cité qui fit avec Athènes l'orgueil de l'Antiquité et dont les vestiges continuent d'étonner notre époque. Combien de fois n'a-t-on pas essayé de sortir, de ravir à ces hommes, à ces grands hommes, le triomphe qui leur revenait de droit? Combien de fois n'a-t-on pas essayé de contrarier leur politique par des combinaisons, par des conjurations dictées par l'envie, la jalousie, l'incompréhension, tout ce que peut susciter la soif du pouvoir? À la méditation de ces grands exemples, peuple haïtien, que rien ne saurait me décourager des actes, des buts que je me suis fixé. Ils font de faux calculs. Ceux qui tablent sur ma lassitude, ceux qui pensent se pousser en augmentant mes ennuis de santé, ceux qui tirent des plans sur ma fin prochaine. J'invite tous mes compagnons, les Haïtiens, conscients, qui ne se sont pas laissés détourner par le chant trompeur des sirènes, à suivre sur la voie loyale de la fidélité aux objectifs de mon gouvernement en faveur la mission des révolutionnaires n'est jamais terminée. Tant pis pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas continuer. Nous poursuivrons sans eux. Forte de la confiance du vrai peuple et des espoirs de la jeunesse. La paternité et la gloire légitime l'identification du pays en spéculant sur sa disparition. En œuvrant pour son renversement, soit que dans cette combinaison machiavélique, dans ce soin qui est ingénié à retarder systématiquement les travaux, tout en fournissant des rapports faux premier citoyen de la République. Soit enfin que l'héroïque main-d'œuvre de Pellegrin ait été subtilement encouragée à ignorer Duvalier comme le seul animateur de cette réalisation. Aveuglé par cette ambition politicienne, on était tout d'un prêt, peuple haïtien, jeunesse de mon pays, perdant de vue l'intérêt collectif à sacrifier ses intérêts majeurs en livrant le pays aux querelles insensées d'une prise de pouvoir hypothétique. Heureusement que je demeure celui qui veille sur la cité endormie. Jésus attend. Déjouer la manœuvre. Conjurer l'action. Nocive. Le Deus ex machina. On s'imaginait avoir dressé un tel écran de paperasse que j'avais perdu de vue ce qui fait la légitimité de mon pouvoir. Travailler à votre bien-être, jeunesse de mon pays, pour justifier la confiance que vous avez placée en moi et en moi seul depuis 14 ans. J'ai donc adopté les mesures qui s'imposaient. Et dont vous avez été tous témoins. J'ai affecté d'autres responsables aux travaux de pénigre. J'ai séparé la fonction d'exécution de celle de financement. J'ai fait procéder à l'appuiement des comptes du chantier. J'ai ordonné que soit accéléré les constructions devant recevoir les turbines. Aussi, malgré qu'on ait souhaité autrement, les troublions avides du pouvoir, nous irons à pénigre. En dépit des combinaisons intéressées, notre pèlerinage à l'Antibonite sacrée aura lieu. Il aura lieu en juillet prochain. Et c'est moi qui inaugurerai le système hydroélectrique de Péligre. La vie est ainsi faite que rien de grand et de durable ne se gagne sans effort. Plus on dresse des obstacles à nos rêves et à nos espoirs, plus il nous faut bander nos muscles. Si la vie matérielle s'oriente de plus en plus vers une civilisation presse-bouton, l'organisation sociale et l'organisation politique demeureront irrémédiablement le fait de l'être humain. Dès que l'homme intervient, s'introduise avec lui. Toutes ses grandeurs et en même temps que ses calculs égoïstes et mesquins. Du coup, il entre dans toute équation, même la plus simple, en apparence, les éléments d'incertitude et d'impondérabilité qui faussent tous les calculs, même les plus pessimistes. Le long commerce que j'ai recherché avec mes semblables, les 14 années de magistrature suprême que vous avez vécu avec moi m'ont appris qu'un chef ne doit jamais baisser sa garde sous peine d'être la plupart du temps foué. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Il a fallu toute la ténacité, 20 fois prise en défaut, 20 fois triomphante, des Jules César, Auguste, des Vespasiens, des Titus, des Trajan, pour soustraire la cité qui fit avec Athènes l'orgueil de l'Antiquité et dont les vestiges continuent d'étonner notre époque. Combien de fois n'a-t-on pas essayé de sortir, de ravir à ces hommes, à ces grands hommes, le triomphe qui leur revenait de droit. Combien de fois n'a-t-on pas essayé de contrarier leur politique par des combinaisons, par des conjurations dictées par l'envie, la jalousie, les compréhensions, tout ce que peut susciter la soif du pouvoir. À la méditation de ces grands exemples, peuple haïtien, que rien ne saurait me décourager des actes d'abus que je me suis fixé. Ils font de faux calculs, ceux qui tablent sur ma lassitude, ceux qui pensent se pousser en augmentant mes ennuis de santé, ceux qui tirent des plans sur ma fin prochaine. J'invite tous mes compagnons, les Haïtiens, conscients, qui ne se sont pas laissés détourner par le chant trompeur des sirènes, à suivre sur la voie loyale de la fidélité aux objectifs de mon gouvernement en faveur La mission des révolutionnaires n'est jamais terminée. Tant pis pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas continuer. Nous poursuivrons sans eux. Forte de la confiance du vrai peuple, des espoirs de la jeunesse. À ce propos, je crois venu le temps de lever une certaine confusion qui a marqué la vie politique.
Enquête préliminaire. Pradel Pompilus. Y a-t-il, selon vous, Monsieur Pompilus, une culture ou une civilisation haïtienne? Comment en définir les contours?
Votre questionnaire m'a beaucoup intéressé. Je ne vais pas tout de suite répondre directement à cette première question. Et voici pourquoi. Pour donner une réponse qui soit valable non seulement pour Port-au-Prince, mais autant que possible pour Haïti. J'ai à la fin de la semaine quitté Port-au-Prince. J'ai vécu à la campagne. J'ai dormi à la campagne. J'ai vécu de la vie paysanne. Pour que ma réponse ne vaille pas seulement pour la capitale, mais autant que possible pour l'ensemble du pays. Ah, votre première question, y a-t-il une culture ou une civilisation haïtienne? Comment en définir les contours? Je répondrai oui. Mais à la condition qu'on entende par culture, non seulement l'enrichissement intellectuel, moral ou social qui résulte de la fréquentation de l'école, des théâtres, des musées, mais encore et surtout la façon originale, spécifique dont chaque groupement organise la vie à tous les niveaux, matériel, politique, social, artistique. Je suis parti de la définition ethnologique de la culture. À ce point de vue, je n'exclurai pas de la culture haïtienne. Naturellement, les poésies de Karl Brouard, de Massillon Kouakou, d'Oswald Durand, les romans de Fernand Hibert, de Jacques Alexis, les tableaux de Pinchina, de Cédor. Mais j'inclurai aussi dans la culture haïtienne là où, par exemple, le café, le poiserie, la meringue, la combite et aussi le bon Dieu bon, point de vue moral et philosophique.
C'est sur ce bon Dieu bon que j'aurais aimé enchaîner, bien sûr, une question hors programme, mais vous me tentez tellement, Monsieur Pompilus, que je ne peux pas résister au plaisir de vous demander si cette culture haïtienne a des aspects positifs, c'est-à-dire enrichissants, et négatifs, c'est-à-dire un aspect de blocage d'évolution, d'arrêt d'évolution.
Bien sûr, ce bon Dieu bon, ce fatalisme qui paralyse l'activité me semble être un facteur négatif. Et tout comme la solidarité qui se manifeste dans notre combite, la chaleur humaine que l'on ressent quand on va, par exemple, dans nos campagnes, et constitue un facteur positif. cette chaleur humaine, cette politesse naturelle qui s'est perdue dans les grandes villes. Je m'en suis souvenu quand, par exemple, à mon premier voyage à Paris, je remarquais que dans une maison de la cité universitaire où l'on était en principe pour se connaître, n'est-ce pas, on ne se saluait pas dans l'escalier. Alors, je me suis dit que à ce point de vue-là, le paysage ici est bien plus avancé que bien plus cultivé. Bien plus cultivé que certains Parisiens, certains étudiants.
À cette culture ou civilisation haïtienne, nous proposons, mais ce n'est qu'une hypothèse de travail, le terme haïtianité pour la nommer. Que pensez-vous de ce terme, monsieur le grammairien?
Je crois qu'il est heureux. Cependant, ma manie de professeur m'interdira de l'écrire avec deux N. Je l'écrirai plutôt avec un seul N. Je crois qu'il est heureux ce terme-là.
L'on a dit que nous étions le produit d'un métissage culturel. Selon vous, monsieur Pompilus, le terme est-il juste?
Il y a là une image qui a été inventée par les ethnologues. On ne peut pas savoir l'origine d'une image, on ne discute pas de l'origine d'une image. C'est une image, je l'accepte.
Vous l'acceptez, ce qui signifie que cette image qui renvoie au concept de mariage convient, selon vous, à ce qui se présente sous nos yeux comme les aspects de la civilisation haïtienne ou la culture haïtienne. Mariage, mais qui sont les conjoints?
Je considérerais, par exemple, un élément sur lequel je me suis penché, plus particulièrement, le créole, qui est la manifestation de métissage culturel, de métissage de deux langues, le français et les langues africaines, en particulier les langues du groupe Ewe, dans sa grammaire, qui place par exemple le déterminant après le nom, bureau, à tabla. C'est un fait des langues Ewe, l'influence Ewe.
Le créole est donc, selon vous, une sorte de symbole de ce métissage de culture européenne et de culture africaine, qui se traduit par une langue, un dialecte qui nous est propre. Les autres Antillais sont eux aussi à la croisée de deux ou plusieurs civilisations. Notre métissage est-il semblable à celui de nos frères des Caraïbes?
Oui, il y a certains éléments de notre métissage que nous retrouvons chez nos frères des Caraïbes, par exemple le créole qui se retrouve à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Dominique, à la Trinité, et même à la Jamaïque, il y a un créole anglais à la Jamaïque. Mais il y a certains éléments de notre personnalité qui nous distingue profondément des autres Antillais, et je les soulignerai en répondant aux questions qui suivent.
Eh bien justement, le moment est venu de vous demander quelles sont les composantes de notre personnalité haïtienne.
Je ne crois pas avoir démêlé toutes les composantes de notre personnalité. Je crois cependant pouvoir dire que nous avons été profondément marqués par l'esclavage et la colonisation, que nous ne sommes pas complètement débarrassés des séquelles de ces deux phénomènes, de ces deux catastrophes. Cependant, nous en sommes sortis de l'épreuve avec la fierté, une grande fierté d'être indépendant, d'être nègre indépendant, et une grande fierté aussi d'être nègre depuis Price Mars, du moins dans la bourgeoisie. La paysannerie haïtienne a toujours été fière d'être nègre, si bien que dans notre créole, dans sa langue, le mot nègre n'a aucune signification péjorative.
C'est le synonyme de homme.
De homme, de individu. Dans l'expression, par exemple, blanc, ça a son grand nègre.
Bravo.
C'est un grand homme. Nous sommes donc sortis avec la fierté d'être nègres, ce qui n'est pas courant dans les autres Antilles. Nous sommes à peu près les seuls à être fiers d'être nègres.
Ailleurs, on est plus ou moins complexé en entendant parler de nègre. Et notre fierté d'être indépendant a été aussi à l'origine d'une création artistique extrêmement riche. Quand je compare le développement économique de la Jamaïque, par exemple, de la République dominicaine, avec notre développement économique si bas, et de notre côté, le développement si riche de notre littérature, notre peinture, qui n'ont pas leur pendant à la Jamaïque, à la Guadeloupe, à la Martinique ou à la République dominicaine, je comprends tout le prix de l'indépendance, tout le prix du fait que nous avons pris l'indépendance par les armes. Nous avons été indépendants avant ces pays, que nous avons conquis notre indépendance. Et je dis toujours merci de Saline.
Vous avez précisé donc notre fierté d'être nègre, notre fierté d'être indépendant et les conséquences culturelles, littéraires et artistiques de cette vie de peuple libre qui n'ont pas conséquences, qui ne se retrouvent pas dans notre développement économique, hélas. Mais auriez-vous d'autres éléments de cette personnalité
La première réflexion, je n'ai pas découvert d'autres éléments.
Bon, nous y reviendrons. Quels sont les aspects de la vie quotidienne en Haïti, où ces différences, vous avez noté des différences avec d'autres pays des Caraïbes, où ces différences sont les plus flagrantes, selon vous, M. Pompilus?
Je dirais, par exemple, l'alimentation, la danse, et puis la religion, l'aspect religieux. Le métissage religieux, c'est pas le métissage entre le vaudou et le catholicisme, ce qu'on appelle la mentalité vaudouesque. Je n'ai pas beaucoup vécu dans les autres Antilles, je n'ai fait que passer en transit à la Guadeloupe, j'ai vécu 8 jours à la Martinique et 8 jours à la Jamaïque. Alors, je n'ose pas trop m'avancer dans cette comparaison.
La dernière question est un peu délicate. Je vais vous dire pourquoi, M. Pompilus. Je l'ai formulée d'une façon très générale. Le monde tend vers une certaine uniformisation. Le monde, bien sûr. Mais notre monde caraïbe tend vers une certaine uniformisation qui aurait les couleurs bien définies de notre grand voisin du Nord. Porto Rico est une province presque américanisée. Si l'on cherche, on trouvera aussi d'autres constantes de cette uniformisation. Notre personnalité haïtienne a-t-elle, selon vous, une chance de survie?
Je crois que nous n'allons pas nous fondre dans une grande civilisation. Évidemment, nous adoptons certaines manifestations extérieures de cette civilisation. Le costume, la voiture automobile, la radio, la télévision, et même un peu la langue de ces peuples-là. Mais il y a des choses qui ne passeront pas, il y a des choses qui survivront. Par exemple, un certain rythme dans la démarche, un certain rythme dans la danse, et une certaine chaleur humaine, hein. Et je crois aussi que notre langue ne disparaîtra pas non plus, la langue populaire d'Haïti ne disparaîtra pas non plus. Nous adopterons d'autres langues de grandes civilisations à côté, mais nous n'allons pas renoncer au créole. Le créole survivra également.
En d'autres termes, si j'ose ajouter quelque chose, vous croyez que cette civilisation que nous avons peut-être, pas malgré nous, mais en dépit du bon Dieu bon, créée et forgée sur la terre d'Haïti Thomas, cette civilisation est-elle dynamique? Peut-elle résister à des apports étrangers, des invasions étrangères? Et peut-elle, malgré l'envahissement d'autres civilisations, peut-elle garder sa personnalité et rester aussi dynamique qu'elle a été pendant 150 ans?
Ça dépend un peu de nous. Ça dépend un peu de nos élites. Certains éléments de notre civilisation pourront survivre, si nos élites se convainquent qu'il n'y a pas de civilisation avec grand C et à côté d'autres sous-civilisations avec petit C, mais qu'il n'y a qu'une seule et même civilisation qui sont faites de toutes les valeurs que les principaux groupements humains peuvent créer. Ceci repose sur le postulat que tout groupement peut créer des valeurs et créer en sorte des valeurs qui sont égales aux valeurs créées par d'autres groupements, qui ne sont pas des sous-valeurs d'une grande civilisation, mais des valeurs différentes, mais égales.
Monsieur Pompidou, s'il vous plaît, pensez-vous que, en dépit de l'introduction de l'industrie en Haïti, introduction d'industrie que l'on constate, par exemple, sur la route qui mène à l'aéroport, notre culture puisse survivre?
Je ne crois pas que nous puissions appeler industrialisation le phénomène auquel nous assistons. Il y a quelques petites fabriques pour l'industrie d'assemblage en Haïti. Ce n'est pas encore la grande industrialisation. Ce n'est pas suffisant pour menacer notre culture. Dans ces fabriques-là, ben, les ordres sont transmis en créole et les ouvriers et ouvrières gardent leurs mœurs, leurs coutumes. Mais je n'ai pas peur pour la culture haïtienne.
Justement, cette industrialisation ou bien ce début d'industrialisation permet justement aux femmes ou bien aux hommes qui travaillent dans ces ateliers de montage d'envoyer leurs fils à l'école. Je crois que le fait pour eux d'envoyer leur fils à l'école va amener une certaine assimilation de la culture étrangère à la culture française ou américaine.
Ce n'est pas bien gentil pour vous, les écoles, ce que vous avez dit là. Les écoles ne sont pas des lieux où on assimile les jeunes Haïtiens aux cultures étrangères, à la culture française ou à la culture américaine, n'est-ce pas? Je suis directeur d'une école et je vous assure que nos élèves ne sont pas des assimilés. Ce sont des Haïtiens, n'est-ce pas? Et qui ont les pieds bien plantés dans le sol d'Haïti et naturellement avec le regard tourné sur le monde entier.
Justement, c'est ce regard tourné sur le monde entier. Est-ce que vous ne croyez pas que à cause de ce regard tourné sur le monde entier, on perd un peu des vraies valeurs haïtiennes?
Mais non, s'ils ont leurs racines, n'est-ce pas, bien ancrées dans le sol d'Haïti, je n'ai pas peur. Ils peuvent avoir des ouvertures sur le monde. Et je veux qu'ils aient des ouvertures sur le monde. Je ne veux pas qu'ils soient fermés sur eux-mêmes non plus.
Haïtianité, interview avec Michel Lamartinière Honorat. Monsieur Honorat, croyez-vous qu'il y ait une culture ou une civilisation haïtienne? Comment définiriez-vous les contours de cette culture haïtienne?
La réponse à cette question exige une discussion. Cependant, la circonstance impose une synthèse. Synthèse qui doit tout de même donner une vue d'ensemble du problème posé. Au stade actuel de la connaissance, dans les divers domaines des sciences sociales et humaines, particulièrement de l'anthropologie, c'est de la gymnastique mentale, une coquetterie intellectuelle, de parler de l'existence de la culture ou de la civilisation d'un peuple et de la définir. Néanmoins, pour l'esthétique de la vie en société, de sa société, pour la continuité de l'histoire, de cette culture ou de cette civilisation, il est utile et nécessaire que l'on s'interroge sur sa propre existence, pour ne pas œuvrer dans l'irréel par rapport à soi et pour ne pas faire de bon dans l'inconnu. À la recherche de la lumière, de la pure lumière de sa conscience que cachent parfois les ombres de l'inconscient, une culture ou une civilisation est à définir, à étudier, à analyser sans cesse, après avoir mis en évidence son existence pour la formation des jeunes générations qui montent et à toutes fins utiles. Surtout lorsqu'il s'agit d'une communauté sous-développée comme la nôtre, ayant connu les rigueurs du régime esclavagiste. Le docteur J.C. d'Orsainville a pensé qu'il n'existe pas de peuple, si primitif soit-il, sans culture. Précisant sa pensée, après avoir embrassé notre personnalité collective dans de remarquables études, il a affirmé « Partout où des hommes ont vécu, ont senti, ont pensé, ont agi ensemble, il s'est constitué une culture. dans sa vue d'ensemble de philosophe. Il a défini la culture, l'ensemble des traits distinctifs ou spécifiques des phénomènes humains d'un groupe national ou racial développé par l'histoire et la vie commune. Nous n'avons pas voulu oublier le docteur d'Orsainville dans notre petite discussion. Pourquoi ? Parce qu'il est l'un des pionniers ayant contribué à l'étude de l'homme haïtien et de son milieu, partant de son histoire pour dégager sa psychologie. Cependant, il ne s'était pas arrêté à l'étude minutieuse, approfondie des faits de notre culture, comme le font les anthropologues, pour montrer ses richesses et son dynamisme. Il a discuté le problème de l'existence d'une culture haïtienne, simplement pour s'arrêter à notre mentalité. C'était bien, mais c'était insuffisant. Il a fait œuvre d'érudit égaré dans la généralisation. Par exemple, le clinicien chez lui, recherchait dans la possession dans le vaudou, un cas pathologique, au lieu de la situer dans le contexte de notre culture, pour l'étudier, l'analyser, avant toute tentative de définition de ce phénomène, comme devait le faire plus tard le docteur Louis Mars, dans ses travaux d'ethnopsychiatrie et d'ethnopsychologie. Ainsi donc, le chercheur haïtien le plus intéressant, au moment où nous discutons la question de l'existence d'une culture haïtienne et de sa définition, est sans conteste l'oncle le docteur Jean Price-Mars. Par la totalité de son œuvre magnifique, il est arrivé à placer l'homme haïtien à côté des autres types humains de la Terre, de la grande, belle et tragique aventure humaine. Il est le premier à mettre en évidence toute la beauté, tout le dynamisme de la culture ou de la civilisation haïtienne. Par le dévoilement méthodique de nos traditions, de nos mœurs, de nos us et coutumes, par le rayonnement de sa pensée que nous avons étudiée à l'occasion de son jubilé, le 15 octobre 1956, il est chef d'école. Comme l'a signalé le professeur Mesmé Gabriel, c'est le docteur Jean Price-Mars qui, le premier, a systématiquement posé l'existence d'une culture haïtienne. Il a étudié tout le processus de notre formation ethnique et a retrouvé les dominantes africaines de notre culture. Il a remonté à l'époque précolombienne. Il a considéré notre problème de métissage racial à partir de cette époque lointaine. Il est arrivé sous Nicolas Ovando pour considérer des faits d'une importance capitale dans l'étude du peuplement d'Haïti durant l'administration espagnole de la nouvelle colonie. Il s'est arrêté au trafic monstrueux de l'esclavage de l'homme noir par l'homme blanc. Après avoir questionné les différents types africains, il a signalé que le groupe négritien a fourni à la traite afro-américaine le fort contingent du bétail humain. Et ce groupe a prédominé dans la formation du peuple haïtien. Après avoir étudié l'immense base africaine de la société naissante, il n'a pas conclu. Il a recherché avec le même enthousiasme, la même discipline, la valeur de l'apport blanc. Il a questionné boucaniers, flibustiers et les divers types d'engagés. Enfin, il a embrassé le problème du croisement des esclaves nègres avec les maîtres blancs. À ce moment-là, la population est à sa phase importante, principale, avec toute sa complexité. Il n'est pas nécessaire de nous arrêter aux détails. Le mélange des différents types humains qui se sont rencontrés dans la continuité de l'histoire sur la terre de Saint-Domingue devait donner cette mosaïque de couleurs que présente actuellement la société haïtienne. C'est l'aspect du métissage racial. Évidemment, la rencontre de ces hommes différents mélangés devait fusionner dans le creuset de la société domingroise tout ce qu'ils avaient en eux, tout ce qu'ils transportaient comme force psychique, mœurs, traditions, us et coutumes, pour créer un nouveau peuple avec sa culture ou sa civilisation propre. C'est la culture haïtienne. Pendant longtemps, des Haïtiens niaient, mettaient en doute l'existence de cette culture nouvelle. D'autres volontairement considérant le développement intellectuel d'un individu ou d'un groupe confondait culture avec grand C et formation intellectuelle. Pour eux, notre culture est latine, simplement française. Alors l'oncle, poursuivant jusqu'au bout son œuvre, a dénoncé le phénomène de bolivarisme collectif, c'est-à-dire la faculté que s'attribue une société de se concevoir autre qu'elle n'est. Il leur a rappelé l'observation de Goethe pendant son voyage en Italie qu'il existe entre l'individu et le milieu dans lequel il vit une certaine communauté d'habitudes, de goûts et de pensées qui constitue à proprement parler une culture. Culture avec grand C. Alors, il a posé la question à nos élites si nous avons tiré parti de la correspondance qui existe entre notre milieu, nos goûts et nos habitudes de pensée pour en faire œuvre d'art. Toute l'œuvre du docteur Jean Pressemans, avec la maîtresse ainsi par la l'oncle, s'est donnée pour tâche d'étudier l'homme haïtien, son milieu et l'intégration de cet homme dans son milieu, sans l'isoler pour autant du reste de l'humanité. Alors, il a adopté la définition anthroposociologique de la culture de Roland Dixon. Le terme de culture est employé par les anthropologues, les sociologues et autres comme une désignation de la totalité des productions et des activités d'un peuple dans l'ordre social et religieux, coutumes et croyances. C'est ce que nous avons l'habitude d'appeler leur civilisation quand il s'agit des peuples les plus avancés. Nous parlons d'une civilisation égyptienne, grecque et chinoise, européenne ou américaine, car nous regardons ces peuples et nous-mêmes comme civilisés, en contraste avec la masse des incivilisés, des barbares et des sauvages, mais en réalité ces derniers ont leur propre culture, leur propre civilisation, aussi définie, aussi caractéristique que celle de leurs parents les plus favorisés. La culture de tout peuple englobe la somme de toutes ses activités, coutumes et croyances. Et toutes ces choses sont comprises en trois catégories, physiques, sociales et religieuses. Alors, avec l'aide du maître, qui a œuvré à la lumière de cette définition, et comme lui, disons que si le peuple haïtien a des coutumes, des mœurs, des croyances, des institutions qui lui sont propres, une vie matérielle, morale, intellectuelle et sociale, qui est caractéristique de sa manière d'être collective, elle est en possession de sa propre culture, de sa propre civilisation. De notre synthèse incomplète, nous en convenons. Nous définissons les contours de cette culture et de cette civilisation, la fusion des mœurs, des coutumes, des traditions, de toutes choses contenues dans la production et les activités comprises dans les trois catégories physiques, sociales et religieuses des différents types de races différentes qui se sont mélangées sur la terre d'Haïti.
Merci beaucoup, Monsieur Honora. Pour définir cette civilisation dont vous avez si brillamment parlé tout à l'heure, et je vous remercie aussi comme disciple, comme élève, comme petit bonhomme à côté du docteur Pressemans, que j'ai longuement connu, des termes élogieux qui ont accompagné ces citations. Pour définir cette... je voudrais aussi, à l'ouverture de cette émission consacrée à la haïtianité, rendre un public hommage à notre oncle, à celui qui a guidé nos pas. Je me rends compte que d'une génération à l'autre, monsieur Honora, nous avons gardé la même ferveur envers l'oncle. Radio Haïti et Haïti Inter bientôt organisera une semaine de souvenirs pour le docteur Jean Pressemans. Mais pour définir cette civilisation haïtienne, nous avons proposé le terme d'haïtianité pour nommer cette civilisation haïtienne. Croyez-vous le terme valable? Et pourquoi?
Personnellement, mon cher Jean, simple discipline mentale, nous n'aimons pas discuter les termes. La terminologie crée parfois des divergences tellement profondes qu'on arrive difficilement à concilier les parties, alors qu'elles ne sont pas loin de la vérité si les termes sont vidés de leur contenu émotionnel. Cependant, nous ne voyons aucun inconvénient, linguistique ou autre, à ce que le terme haïtianité signale ou désigne l'état d'âme, le comportement, les attitudes de l'homme haïtien face à l'existence et où il se trouve. Mais il ne doit pas être une morphologie d'école, enfermée dans un dogmatisme qui s'opposerait à tout raisonnement, à toute discussion. Par exemple, haïtianité ne doit pas être un mouvement d'idées devant entrer en conflit stérile avec des termes comme négritude et francophonie. Nous précisons que si haïtianité est pour désigner, signaler l'homme haïtien, notre personnalité collective, nous ne voyons aucun inconvénient à ce qu'il soit employé.
Que je précise tout de suite, puisque Je ne suis pas l'auteur du mot, je n'ai pas forgé le mot, je crois qu'il existe dans les manuels de littérature, mais utilisant ce moyen de diffusion qu'est la radio, je sais que le mot va prendre une grande importance à l'avenir, que je précise tout de suite, et je crois qu'il ne s'agit pas d'une question de vocabulaire ni de linguistique, que le terme haïtianité ne doit pas diviser, mais unir.
Ce que je souhaite.
L'on a dit que nous étions le produit d'un métissage culturel. Le terme est-il juste?
Il est juste. Nous sommes le résultat d'un métissage culturel. Pensez à votre première question et à notre réponse irrelative. Nous avons suivi en compagnie du docteur d'Orsayville et du docteur Breichmans la courbe de notre peuplement, de la découverte au croisement des différents types, des différentes races, aboutissant à la naissance du métis haïtien. C'est l'aspect biotypologique du problème avec les inconnus de la génétique. Dans le domaine collectif, tout métissage racial suppose un métissage culturel. Retrouvons les différents faits de culture ou de civilisation, des types humains qui se sont fusionnés dans le temps de notre corps social. Cette hypothèse de travail devient positive. Nous avons employé le terme métissage racial en diverses occasions. Pour annoncer la participation d'Haïti au premier festival mondial des arts nègres du 1er au 24 avril de l'année 1966, nous avons mis l'accent dans une petite publication intitulée « Présence sur notre métissage culturel ». Il est évident, écrivons-nous alors, que le nouveau monde n'a pas été touché seulement par les cultures gréco-latines et anglo-saxonnes. Si la civilisation occidentale domine encore par sa technique et son canon, la culture africaine, par les expressions de son symbolisme, a apporté quelque chose dont la transcendance ne peut être effacée par les préjugés, les complexes, nés du colonialisme et de l'impérialisme. De la grande aventure humaine, à travers les coins et recoins de notre univers, deux humanismes, l'occidental et l'africain, s'interpénètrent pour atteindre de la diversité des phénomènes, une civilisation plus humaine. Les nègres transplantés d'Afrique, s'ils étaient presque nus dans l'enfer des négriers, avaient néanmoins la conscience pleine de siècles riches de civilisation. Il n'y a pas de peuple et de race sans culture, nous le répétons. Et les Noirs arrivés dans le Nouveau Monde, l'esclavage, c'est-à-dire la bêtise humaine de l'Occident pour l'exploitation des richesses des terres nouvelles de l'Amérique, loin de détruire en eux les germes de belles cultures des civilisations nécro-africaines, devaient les enfouir profondément de leur intimité psychologique. À travers le temps et l'espace, les sous-hommes victimes du colonialisme inhumain, de l'Homo Europaeus, du choc en retour des métissages biologiques et culturels, transformaient les canons gréco-romains pour aboutir à cette symbiose dynamique dont parle le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal, qui produit un fruit nouveau, plus succulent. Nous avons poursuivi ainsi cette partie de notre étude. Au Festival des Arts Nègres, c'est cette symbiose dynamique, ce fruit nouveau, plus succulent, que l'Afrique attend de sa fille afro-latine. Haïti, dans la mer des Caraïbes, est une petite fille afro-latine toute chétive, caressée par les baisers des vagues et des brises musiciennes et vagabondes. C'est elle, gentiment, avec son soleil de l'âme et dans les yeux son ciel bleu, qui doit répondre à l'appel de Dakar. C'est elle que l'Afrique attend. Le 20e siècle, semble-t-il, notre grand et bouleversant 20e siècle, est le siècle des grands débats. Les grands débats des peuples et des races écrasées par le colonialisme et l'impérialisme pour un renouvellement de civilisation. Nous sommes donc au carrefour du rendez-vous, du donner et du recevoir, selon les images d'Aimé Césaire, où nous devons affirmer toute notre personnalité, sans timidité, en repoussant l'asservissement et l'assimilation. Ce n'est pas la France que Dakar attend d'Haïti. Ce n'est pas non plus l'ancienne Afrique que Dakar attend d'Haïti. Ce que Dakar attend de sa fille afro-latine, c'est la culture haïtienne. Cette symbiose dynamique
métissage culturel qui produit un fruit nouveau, plus succulent. Comme vous devez le remarquer, l'école ethnologique, la jeune école ethnologique haïtienne à laquelle nous appartenons, a toujours œuvré sur ce métissage culturel.
Merci, monsieur Honorat. Cependant, il y a un cependant. L'Afrique et la France ont donné plusieurs filles aux Caraïbes. Il y a Haïti, mais il y a aussi la Guadeloupe et la Martinique. En élargissant l'horizon, l'Europe et l'Afrique ont donné plusieurs enfants à la Caraïbe. Les enfants francophones, mais aussi les enfants anglophones. Les Antillais sont donc, eux aussi, comme Haïti, des produits de ce métissage culturel. Mais les autres Antillais, à la croisée de deux ou plusieurs civilisations, est-ce que ce qu'ils ont produit, ce qu'ils sont actuellement, ressemble à ce que nous sommes? N'y a-t-il pas des différences entre les Haïtiens et les autres Antillais de la Caraïbe?
Les autres Antillais sont aussi comme nous, à la croisée de deux ou plusieurs civilisations. Ils sont aussi le produit d'un métissage culturel. Mais il nous manque d'informations précises, détaillées, pour répondre à votre question. À notre connaissance, il n'y a pas d'études comparatives à ce sujet. Et nous n'avons pas encore le bonheur et le privilège de les visiter. Nous pouvons dire cependant qu'il y a des ressemblances entre le créole haïtien et celui des Antilles françaises. Là s'arrête notre connaissance en ce domaine. Par discipline, nous ne pouvons rien discuter au sujet de leur métissage racial par rapport au nôtre. C'est pour nous l'occasion de suggérer que la faculté d'ethnologie d'Haïti et d'autres institutions d'études et de recherche entreprennent des démarches pour des échanges culturels avec ces pays frères et organiser, si c'est possible, des missions d'études et de recherche.
Eh bien, j'espère que cette enquête sur l'haïtianité débouchera un jour sur une enquête avec le patronage de l'Institut d'ethnologie ou d'autres organismes, sur une enquête sur la personnalité antillaise ou caraïbe. Mais poursuivons. Il y a une question qui, bien sûr, ne sera pas envisagée par vous, parce que si vous n'avez pas encore, par discipline, la possibilité de définir nos différences face aux autres Antillais, vous ne pouvez donc pas voir quelles sont ces différences et quels sont les aspects de ces différences les plus flagrantes dans notre milieu, monsieur Honorat.
Réservons cette question, mon cher Jean.
Pour la fin de l'enquête.
Pour la fin de l'enquête.
Mais revenons à nous, c'est-à-dire à ces Haïtiens qui sont formés, qui sont coulés au creuset de ce métissage culturel. Quelles sont les composantes de notre personnalité?
À la suite du docteur J.C. d'Orsayville, qui a recherché dans ses travaux les dominantes que la psychobiologie, servie par une évolution historique particulière, une formation ethnique spéciale, impose à la mentalité du groupement haïtien, du docteur Jean Price-Mars, qui a signalé notre unité spirituelle, notre tonalité mystique, nous avons tenté dans une étude inédite, malheureusement, d'analyser quelques aspects de la psychologie du peuple haïtien. De notre vie collective, on retrouve les fins qui déterminent nos réactions d'afro-latin. Alors nous partons d'une hypothèse de travail ainsi formulée, la croyance du peuple haïtien au merveilleux. Croyance au merveilleux qui se distingue à l'analyse, à l'interprétation de la possession dans le vaudou. Pour dégager les composantes de notre personnalité, nous devons penser sans cesse aux idées fondamentales qui, d'après le professeur Mespin Gabriel, ont inspiré le docteur d'Orsayville. Ce sont des idées complémentaires, la fonction de notre intellectualité qui consisterait à reconstituer notre culture, à soumettre tous nos problèmes au traitement scientifique et, dans cette entreprise, à pratiquer, contrairement à notre vieil individualisme, la division des tâches. Nous pouvons alors, même si nous voulons systématiser, suivre l'ordre historique d'émergence de nos problèmes, problèmes de culture avec l'indice de primauté par la proportion du type africain de la démographie de Saint-Domingue, problème du milieu physique avec ses constantes, problème de la communauté sociale qui résulte du brassage des éléments ethniques. Nous pensons surtout, déformation professionnelle peut-être, que c'est à travers les faits ethnographiques et folkloriques, comme l'a fait l'oncle, qu'il faut dégager notre unité spirituelle, notre tonalité mystique et retrouver la dominante de notre personnalité, la croyance du peuple haïtien au merveilleux, le merveilleux du bien, le merveilleux du mal. Croyance force, disons-nous, à ne pas confondre avec la possession dans le vaudou, un phénomène électif individuel, suivant les termes du docteur d'Orsayville, malgré l'aspect collectif du vaudou en tant que religion populaire. Nous ne devons pas oublier que le docteur Louis Mars, le témoignage 1, essai ethnopsychiatrique, publié à Madrid au cours de l'année 1966, a écrit « En Haïti, l'évolution de la personnalité humaine pose des problèmes bien complexes. Elle est liée au double concept afro-haïtien d'esprit et de possession. En Haïti, précise-t-il, la notion cartésienne de la personnalité prédomine dans les discussions académiques. Mais la vie quotidienne du peuple s'inspire de la notion africaine qui est étroitement liée au concept de possession et d'esprit. En peu de mots, c'est toute la théorie afro-haïtienne de la personnalité. Dans nos proverbes, dans nos contes, nos devinettes, nos chansons, dans nos marchés, dans notre carnaval traditionnel, dans le rara, dans la vie de chaque jour, l'on retrouve les manifestations de notre personnalité d'afro-latin. L'on retrouve cette haïtianité dont vous parlez. L'âme haïtienne, notre personnalité collective avec ses composantes, recherchez-la donc dans notre riche et merveilleux folklore.
Monsieur Nora, je dois révéler un petit peu les coulisses de cette émission à l'auditeur, parce que d'abord, je me rends compte en vous écoutant que la pierre que j'ai lancée, elle tombe dans un océan. Et les problèmes que vous soulevez sont d'une telle importance qu'il faudrait peut-être une deuxième interview pour essayer de cerner la question. Mais voilà ce qui se passe. C'est que vous référez à une personnalité afro-latine avec le texte de Louis Mars concernant la définition de notre personnalité et l'importance du concept d'esprit et de possession dans cette définition. Là, je reste rêveur et je me demande s'il serait possible, vraiment possible, par une étude scientifique, de retrouver dans les différents aspects de la vie quotidienne de l'haïtien ces éléments définis par le docteur Mars. Je m'explique. Est-ce que ce serait le travail du romancier, du poète, ou de l'ethnologue, ou du folkloriste, ou du musicien, ou du critique d'art, de dégager de chaque personnalité marquante dans ces différents domaines l'aspect possession, l'aspect esprit? Car à ce moment-là, nous allons en circulant dans les villes et dans les campagnes nous émerveiller à chaque instant des réactions de l'individu. Il faudrait vraiment un travail d'équipe pour arriver à définir cette personnalité, les composantes de cette personnalité. Mais je m'égare et je me rends compte qu'il y a encore une autre question à poser. Ce sera la dernière et concernant nos chances, tout cela ne sera-t-il pas du domaine du folklore mais de l'archéologie dans une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années? Est-ce que notre personnalité haïtienne ne disparaîtra pas dans ce grand courant d'uniformisation qui s'amorce dans le monde et dans notre petit monde caraïbe, dans ce grand courant de nivellement, est-ce que l'haïtien ne va pas ressembler aux portoricains, aux jamaïcains ou aux trinidadiens et que les quatre ne finiront pas par devenir une sorte de sous-produit de la civilisation nord-américaine? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Honoré?
Une très belle question, mon cher Jean, et je vais essayer d'y répondre. Cette uniformisation à laquelle vous faites allusion et vers laquelle tend le monde n'est autre chose que la civilisation de l'universel qui est une vision de l'esprit, une vue de la pensée humaine à la fin de ce siècle de la continuité de l'histoire. Nous avons parlé d'en présence de la perspective d'une civilisation plus humaine faite de l'apport des peuples et des races du monde pour un homme nouveau, une humanité nouvelle, meilleure, un humanisme réel à la dimension de l'universel. De cet ordre d'idées, nous pensons que l'homme haïtien a un rôle à remplir dans l'humanité par la mise en valeur de notre culture et de notre civilisation pour la survie de notre personnalité. Cette survie de la personnalité haïtienne est l'une des responsabilités de nos élites. Nous avons écrit dans la même étude qu'il faut se montrer d'abord et non se dépouiller pour participer à l'universel. Il faut se connaître et non s'ignorer pour répondre présent. Ainsi donc, il faut se présenter tel qu'on est pour être soi-même au cœur des transformations de l'histoire. Le président Léopold Sédar Senghor a pensé de la nécessité d'un triple inventaire. Celui de la civilisation négro-africaine, celui de la rencontre des civilisations et enfin celui des ressources économiques. Le grand écrivain homme d'État a expliqué cette nécessité de l'inventaire avant tout plan de développement. Et dans tout plan de développement, c'est nous qui le pensons. La mise en valeur par l'éducation de la culture ou de la civilisation d'un peuple assure la survie de sa personnalité qu'il ne doit pas étouffer en suivant la marche du progrès. Nous l'avons déjà écrit aussi. Un peuple qui joue de sa culture en la méprisant, en la repoussant, à la recherche des impedimenta du colonialisme et de l'impérialisme, est un peuple vil qui s'oppose à sa civilisation et à toute civilisation. C'est un peuple assimilé et incapable de dépassement pour atteindre la grandeur et la gloire. Nous autres anthropologues, nous avons commencé cet inventaire depuis les travaux du docteur Jean Price-Mars. L'œuvre inachevée, certes, attend d'autres études, d'autres monographies pour l'intelligence de la matière haïtienne. Les poètes, romanciers, dramaturges, peintres, sculpteurs, céramistes, architectes, musiciens, chorégraphes, journalistes de la presse parlée et écrite, éducateurs du pays d'Haïti, doivent s'intégrer de plus en plus dans leur milieu pour cette mise en valeur de notre culture ou civilisation. C'est la seule façon d'être soi-même dans la civilisation de l'universel qui s'annonce déjà. C'est la seule façon d'assurer la survie de notre personnalité, dans cette uniformisation à laquelle vous faites allusion et vers laquelle tout le monde, tant tout le monde.
Merci beaucoup, monsieur Honora. Et j'espère que grâce à vos réponses, le concept d'haïtianité et l'enquête que nous organisons connaîtront la résonance qu'il faut dans le public pour permettre justement ce travail collectif. Maître Alix Matan, vous êtes l'auteur de La fin des baïonnettes, un roman, un récit sur la période haïtienne, dite période haïtienne d'avant l'occupation. Croyez-vous que la situation qui a abouti à l'occupation ait été le résultat d'une décadence, d'une dégradation, d'une décomposition de la société haïtienne?
Il est un fait que l'occupation d'Haïti par les États-Unis d'Amérique en 1915 est due d'abord à un fait américain. La nécessité qui se présentait pour les États-Unis de boucler le cercle des pays et des territoires qui se trouvaient autour du canal de Panama, qui était une zone vitale pour la stratégie américaine. Il s'agissait pour les États-Unis, qui avaient une flotte dans le Pacifique et une flotte dans l'Atlantique, d'occuper tout territoire autour de ce canal par lequel ces deux flottes pourraient se réunir pour des besoins stratégiques à tout moment, d'occuper ces territoires pour avoir la police complète du canal de Panama. C'est ainsi que le Nicaragua se trouvait occupé. Du côté atlantique, vous avez Cuba, qui était sous le coup de la demande en plate. Nous disons la Jamaïque, parce que la Jamaïque, à ce moment-là, était des Anglais, et avait les mêmes intérêts que les Américains pour la défense du canal contre l'agression possible de l'Allemagne. Vous aviez Porto Rico, la République dominicaine. Il fallait fermer le cercle du côté atlantique par l'occupation d'Haïti. C'était donc un impératif pour les États-Unis d'Amérique. Nous en avons pâti. Naturellement, notre premier souci, nous, Haïtiens, a été de chercher chez nous des torts et des causes que nous recevrions, comme quoi nous recevions cette occupation américaine comme une punition de nos fautes passées. Ce qui est une vue tout à fait romantique, pour ne pas dire romanesque, de la situation. Il est vrai que nous étions dans un état d'anarchie, que j'ai dépeint dans la fin des baïonnettes, un état d'anarchie qui rendait plus facile la prise de la proie par l'aigle. Mais cela ne signifie pas que ces faits sont arrivés par notre faute et que nous l'avons reçu, que cette occupation américaine constituait une punition légitime que nous recevions pour nos désordres passés. Je refuse d'accepter l'idée que les États-Unis d'Amérique, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, que ce sera demain, agissent comme des gendarmes qui distribuent ou des maîtres d'école qui distribuent de la cravache aux élèves mal élevés et des bonbons aux élèves bien élevés. Ce n'est pas vrai. Ce sont des pays qui agissent, comme tout pays impérialiste, dans un seul but, celui de leurs intérêts.
Cependant, c'est exact, bien sûr. Je conviens avec vous que les États-Unis ont agi dans le sens de leurs intérêts. Cependant, n'y a-t-il pas eu, et c'est là peut-être la cause d'un certain désarroi, n'y a-t-il pas eu en Haïti, à l'époque, des Haïtiens qui agissaient dans le sens des intérêts américains?
À vrai dire, il y a eu des Haïtiens. Et je vous recommande le livre de M. d'Alain Turnier, qui a répondu un peu à cette question, car il est dans une étude très intéressante. M. Turnier, qui avait à sa disposition les documents aux États-Unis, a montré que depuis 1908, depuis l'empoint de 1908, des groupes haïtiens s'agitaient aux États-Unis et qui trouvaient cet empoint 1908 un emploi si défavorable à leur pays qu'ils demandaient aux États-Unis d'intervenir pour empêcher qu'un scandale pareil se produise. Je ne vais pas faire le procès de l'emprunt de 1908, mais c'est pour vous faire une réponse sur ce point.
Rappelons que cet emprunt était contacté entre Haïti, et c'était un emprunt contacté à Paris à l'époque. C'est bien cela.
L'emprunt de 1908, c'est l'emprunt d'Antoine Simon. Mm-hmm. C'est un point de Antoine Simon qui devait être fait pour, qui nous a donné McDonald's, le chemin de fer de McDonald's, certains règlements de la dette antérieure française qui devaient être envisagés. Enfin, je n'ai pas fait, moi, personnellement, une étude spéciale.
Mais ce n'est pas un emprunt américain, c'est ce que je voulais dire.
L'emprunt, ce sont des hommes d'affaires américains qui l'ont contracté. Mm-hmm. Vous savez, en matière de finance, la finance est tellement internationale qu'on ne peut pas toujours donner une nationalité à l'opération qui se fait au point de vue international.
Donc, nous en étions à Alain Turnier et à cette révélation des premiers symptômes d'un appel haïtien à une intervention américaine. Ces premiers symptômes ont été suivis d'autres symptômes, d'autres appels du pied.
Faut-il vous dire que quand on parle d'intervention américaine, cela peut-être n'en appelait pas une intervention armée américaine, car il a toujours été question d'une convention d'amitié avec les États-Unis qui nous apporterait leur aide.
Cette convention, vous y faites allusion dans la fin des baïonnettes en signalant combien les ministres des Affaires étrangères successifs qui se sont... les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés à la chancellerie haïtienne ont eu connaissance et ont dû prendre parti pour ou contre le principe de la convention. Vous avez au cours de...
J'ai même dit qu'ils ont plutôt tous été unanimes à prendre position contre.
Par exemple, un nom nous surprend.
Celui de Louis Borneau. Vous avez la résistance de M. Ulrich Vivier. Vous avez Louis-Joseph Justin, qui tous ont protesté. Vous avez, en dehors des ministres de la chancellerie haïtienne, vous avez cette chose magnifique que les Américains offrant leur aide à des révolutionnaires et offrant leur aide au gouvernement, indifféremment à celui-ci ou à celui-là, pourvu qu'il ait sa convention, voire et gouvernement et révolutionnaires refuser cette aide.
Vous faites allusion à la situation qui s'est posée en Haïti lors de la révolution, enfin de l'insurrection contre Zamor.
Avec Zamor et aussi avec Villebrun.
Avec Villebrun, oui. Quand Rosalvo Bobo était le chef des insurgés. Et lui aussi, dites-vous justement, Maître Matan, il avait protesté, refusé. Il avait refusé.
Oui.
Bien. Eh bien, venons-en à une question qui m'a intéressé, qui m'a particulièrement. Quel a été, je vais employer un mot qui va vous choquer, peut-être qui va vous faire bondir, quelle a été la position de l'élite dans cette affaire les derniers jours de l'époque des baïonnettes et les premiers jours de l'époque étoilée?
Eh bien, laissez-moi vous dire, je crois que c'est une question d'une telle importance que notre petite conversation, là, bâton rompu, ne nous permet pas d'exprimer une opinion qui serait définitive et tranchante. Car en peu de temps, ça pourrait faire même l'objet
d'un ouvrage.
Oui. Mais seulement, je peux quand même affirmer que le mot élite, au point de vue social, est très mal compris, généralement, par nos publicistes. Ils font une confusion malheureuse entre l'élite et les élites. Moi, je dis qu'un pays est composé de plusieurs élites, c'est-à-dire des meilleurs dans toutes les branches et toutes les formes d'activité sociale. Ainsi, vous avez une élite politique, vous avez qui n'est pas forcément une élite intellectuelle, vous avez une élite mondaine, vous avez une élite rurale, vous avez une élite ouvrière. Donc, quand on dit l'élite, on pose très mal la question, on la situe difficilement. Je crois que c'était une erreur que nous retrouvons encore souvent sous la plume du président Vincent, par exemple, qui parlait toujours de l'élite et de la masse. C'est une conception périmée. Car depuis que nous intéressons en Haïti, depuis que la sociologie comme science a pris droit de cité chez nous, nous avons une conception tout à fait différente des divisions sociales. Et le mot élite, maintenant, n'a plus le sens qu'on lui donnait à cette époque. Pour nous, c'est une opinion qui m'est peut-être tout à fait personnelle, elle est peut-être même révolutionnaire dans ce certain sens au point de vue social, je crois plutôt à une division sociale haïtienne qui représente cette opposition d'intérêts en deux groupes haïtiens. Et pour moi, le premier groupe concerne 2 700 000 haïtiens, c'est-à-dire les paysans, ce que en langage vulgaire, nous pourrions appeler l'arrière-pays. Mais au fond, ces 2 700 000 Haïtiens forment, à notre point de vue, une catégorie, si vous ne voulez pas employer le mot classe, car ce serait discuter le mot classe. Donc, nous croyons que d'autres catégories, que le prolétariat et le capitalisme sont en opposition d'intérêts dans la société haïtienne. Cette compétition d'intérêts contraire apparaît dans l'affrontement du producteur rural opposé aux citadins dans leurs fonctions économiques et sociales parasitaires. Je vous disais, combien sont-ils de ruraux? 2 700 000, si ce n'est pas 3 millions, car les chiffres que je vous cite, ce sont des chiffres que j'ai puisés dans Paul Moral, qui pour moi est l'un des ouvrages les plus documentés sur Haïti, l'un auteur le plus loyal que nous ayons des problèmes sociaux, économiques et économiques d'Haïti. Eh bien, cette paysannerie haïtienne, elle produit à elle seule. Vous savez combien? 90% de la richesse nationale. Elle pratique sa production, certainement dans un arriérisme technique généralisé. Tous ces paysans ont des intérêts similaires. Ils sont sujets à la même exploitation. Il est par conséquent impossible de refuser de classer dans une même catégorie sociale et économique les paysans d'Haïti. Le paysan haïtien, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est un prolétaire dans le sens du salarié qui voit son travail exploité par un capitaliste qui l'a financé? Non. Personne ne le finance. Il n'est employé par personne. Il travaille sur son propre bien. Il occupe 90% des terres du pays. Donc, à titre de propriétaire ou à titre de fermier de l'État. Donc, on ne peut pas parler d'un latifundia non plus, haïtien. Il y a donc des salariés haïtiens. Ces salariés haïtiens ne sont pas des paysans haïtiens. Ces salariés haïtiens sont au nombre, peut-être, au grand maximum, à 200 000 sur les 5 à 6 millions d'haïtiens. Mais ces 2 millions d'haïtiens qui sont des paysans qui travaillent dans une sorte d'économie paternaliste et par l'association de communautaires, pas par communautaires, de l'association familiale ou de groupements régionaux sous la forme de Kumbit, sous la forme d'un, qui est une sorte de coopérative et de, comment pourrais-je dire, de coopérative non scientifique, eh bien, ces paysans, voilà leur forme de production, ce sont donc des gens qui travaillent pour leur compte, qui ne sont pas, ils sont exploités, oui, mais ils ne sont pas exploités sous cette forme d'employeur à employé. Ils sont exploités par nous, de la classe urbaine. Car nous, aussi classe urbaine, nous avons notre fonction dans la vie sociale haïtienne. Et nous avons une fonction similaire entre nous. Mais il y a des divisions alors dans la classe urbaine. Des divisions, comme il y a des divisions également dans, ne disons pas le mot classe pour être, pour ne pas, pour qu'on nous fasse pas une querelle de mots. Dans ce groupement urbain, dans ce groupement et rural, il y a des différences également qui existent entre les membres de cette communauté. Il y en a des plus riches, il y en a de moins riches, il y en a de très pauvres, il y en a qui exploitent, ils s'exploitent mutuellement l'un l'autre. Donc, vous voyez, ce tableau social que je vous fais d'Haïti est un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur la question Haïti.
Mais pour en arriver à l'élite, comment peut-on poser le problème alors, dans ce cas? Et surtout en fonction de la situation...
De l'occupation américaine.
De l'occupation américaine.
Bon, en ce qui concerne l'occupation américaine, je ne sais pas si vous êtes peut-être intéressé à savoir quelles furent les réactions à l'occupation américaine par rapport à la population en général. D'abord, nous disons qu'il est des peuples comme des individus. Certains événements surgissent soudain, éclatent en catastrophe et, pourrait-on dire, bouleversent la monotonie du temps qui passe. La brutalité de ces faits imprévus surprend et leur déroulement précipité bouscule la routine, blesse les uns et les autres. Désemparés. C'était l'occupation américaine d'Haïti. C'était un sinistre dont on eut peine à mesurer l'ampleur. Du 26 juillet 1915 au 12 août 1915, allait s'écouler 16 jours de calamité nationale. Le cours normal de l'histoire de notre jeune république s'arrêtait. Les Haïtiens, je peux dire, ces déshérités que nous sommes, se voyaient brusquement détournés de ce qui semblait être leur nouveau destin depuis 1804, celui d'appartenir à un État libre. Ce peuple orgueilleux allait-il perdre son indépendance? 16 jours durant lesquels les esprits, je dois vous le dire, était pris de vertige dans un, disons, tourbillon d'événements et qu'ils avaient comme perdu la faculté de juger. La population, elle, l'ensemble de la population, ne s'intéressait qu'aux nouvelles d'actualité. Elle suivait le spectacle, curieuse de voir la fin d'un suspense. On était témoin, en 1915, d'une calamité nationale. Mais le citoyen, en général, nous la ressentait à peine. Il n'en mesurait pas encore l'ampleur. Vous savez ce qui s'était passé à l'époque. Ce n'est pas nécessaire de vous rappeler que Villebois Guillaume avait été lynché par la population de Port-au-Prince, qu'il fut le dernier président d'Haïti qui eut à appartenir à une époque d'histoire d'Haïti connue sous l'appellation de époque des baïonnettes. Le lendemain de cette catastrophe de Villebois Guillaume, les forces états-unisiennes d'Amérique du Nord débarquaient à la capitale d'Haïti. C'était le début d'une nouvelle époque de l'histoire de ce pays. Ce qui m'a porté, moi, à intituler le nouveau roman que je prends occasion pour vous en parler, que je prépare en ce moment, de la paix, Le drapeau en berne. C'est-à-dire qu'à partir de 1915, le drapeau des Haïtiens était désormais en berne. Voilà. Voilà ce que je pense de l'état général de la population à cette époque. Dans la suite, la civilisation s'est installée, un gouvernement s'est établi, et nous sommes trouvés maintenant, l'Haïtien a repris ses sens. Maintenant, il va juger, il va avoir une opinion, il va se diviser même, ses réactions vont être divergentes. Nous allons voir ce que ça pourrait être à ce moment-là. Eh bien, ne vous attendez pas à rien d'extraordinaire qui sorte du cadre général des réactions d'un pays dont le territoire est occupé. L'occupation du territoire d'Haïti par les forces du Marine Corps des États-Unis a été un acte auquel personne ne prétendit trouver une justification. Toutefois, un gouvernement haïtien légitime se trouvait en cette fin d'année 1915 à la représentation du pays. L'ordre et la sécurité étaient assurés par la présence des forces étrangères. D'un autre côté, vous aviez l'intervention dans les affaires d'Haïti des États-Unis qui prenait un autre aspect que celui qu'il avait au départ. Washington, parallèlement à l'implantation des troupes en territoire haïtien, exécutait un plan politique. Son objectif était de donner à son intervention une force contractuelle au caractère juridique. D'où une convention fut donc soumise par les occupants au gouvernement haïtien. Le 15 octobre, la Chambre des députés vota ce traité qui consacrait la mise sous protectorat des États-Unis. Il ne faut pas nous payer de mots. C'était une mise sous protectorat des États-Unis, de l'Amérique du Nord, de la petite république antillaise d'Haïti. Qu'arrivait-il ? À cette occasion, s'affrontèrent dans une libre discussion au sein de l'Assemblée législative les partisans et les adversaires de la Convention. Et je vais vous rappeler une petite anecdote qui dépend bien les cas d'esprit de l'époque. Le député Kabesh, des Gonaïves, qui appartient, si vous parlez au Mololite, vous parlez de réaction d'élite, le député Kabesh était l'une des plus belles figures de la bourgeoisie gonaïvienne. Le député Kabesh des Gonaïves dramatisa cette séance par un geste dont on retient encore le souvenir aujourd'hui en Haïti. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Eh bien, ce mandataire du peuple, en effet, termina sa dernière intervention dans le débat sur la Convention en s'écriant « Je proteste au nom du peuple, de ses droits, de sa souveraineté, de son indépendance contre le projet de convention d'Artigna Wilson. » Voilà une position nette, franche, de l'élite haïtienne. Le journal officiel Le Moniteur relate qu'à ce moment, le député Kabesh détacha sa cocarde et la lança au milieu de l'enceinte, puis quitta la salle des séances. C'était, vous comprenez bien, pour mieux marquer sa démission comme député, après le vote qui sanctionnait le traité soumis par 70 voix contre 11. Bon, une autre réaction, celle du secrétaire d'État de l'Intérieur, à la discussion de cette même convention. c'était M. Louis Borneau, à qui il appartenait de défendre le projet et qui avait une vision toute différente des choses. Bien que ce fût ce même Louis Borneau qui était si hostile à la Convention au temps des baïonnettes. Pour ce dernier, c'était une main amie puissante que les Américains tendaient aux Haïtiens par l'offre de cette convention qui devait procurer à Haïti ce qui lui avait manqué jusqu'ici, la stabilité politique, l'ordre, la justice, la vraie liberté, toutes les possibilités de vie normale et de travail efficace. Toutes ces choses, disait Louis Borneau, essentielles que les Haïtiens avaient été impuissants à réaliser par eux-mêmes. Voilà l'opinion
d'un autre membre
de l'élite. Il est vrai de dire que pour son contradicteur Cabèche, cet ordre serait l'ordre dans la honte et l'abondance dans les fers dorés. De cette séance devait prendre date deux tendances qui diviseraient les Haïtiens dans leur généralité en classe sociale. Les Haïtiens, jusqu'à la fin de l'occupation américaine du territoire de la République, 17 ans plus tard. Les opposants à l'occupation d'une part et les collaborateurs d'autre part. La résistance à l'occupant allait se manifester sous deux aspects. L'action armée des cracos, tout d'abord, et l'action civique, en dernier lieu, des urbains.